Alors, c'est Pascal Bérubé, le leader de l'opposition officielle Parti québécois, donc, qui parlait de ce projet de loi 107 qui vise à constituer l'UPAC en corps policier indépendant. Et pour le moment, en tout cas, tous les partis d'opposition semblent s'enligner pour voter contre ce projet de loi que le Parti libéral, le gouvernement libéral, veut vraiment faire adopter. C'est l'un des sujets dont on va parler dans les prochaines minutes en compagnie d'Antoine Robitaille, qui est chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Et Alec Castonguay, qui est chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour, bonjour.
Antoine, parle-nous donc de ces affidavits.
Oui, mais je vais d'abord te dire, Bernard, que là, on s'attendait à ce que Martin Coiteux vienne nous parler dans le couloir. Il y a même une heure qui avait été déterminée, 13 heures. Or, il est passé un coup de vent en disant « je vous reparle plus tard ». Et où s'en allait-il? Il s'en allait vers les bureaux du premier ministre. Donc, j'ai l'impression là, qu'on est en mode crise ici au gouvernement.
Pourquoi?
Donc, d'une part, là, le fameux projet de loi, là,
oui.
Il devait être voté aujourd'hui, mais le vote a été reporté. Et on sait que c'est une des demandes de l'opposition, le Parti québécois, tout à l'heure, par son leader Pascal Bérubé, a dit il y a trop de choses qui tournent pas rond là, autour de l'UPAC, c'est-à-dire dans l'UPAC aussi. On apprend constamment des nouvelles déstabilisantes, notamment, ça a passé un peu inaperçu ce matin, mais écoute, plus de la moitié des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui travaillent pour l'UPAC, ils veulent s'en aller. Ça, c'est le syndicat qui le dit, le syndicat des policiers provinciaux du Québec, l'Association des policiers provinciaux du Québec, c'est pas rien, là. Donc, et là, comme tu l'as dit, comme tu avais commencé à me lancer sur les affidavits, ben parlons-en des affidavits. Qu'est-ce qu'un affidavit? Donc, c'est un document dans lequel les policiers, ou par lequel les policiers essaient de convaincre un juge de leur donner des mandats de perquisition. Ben, ces affidavits-là, ils ont été rendus publics par bout, hein, au départ très caviardés. Et là, il y a un autre niveau de décaviardage qui a été fait. Et aujourd'hui, donc, on a beaucoup plus de détails sur les raisons pour lesquelles on a voulu arrêter le député Guy Ouellet. Hein, rappelez-vous, arrêté le 25 octobre, soupçonné d'être à la source de toutes les fuites au Québec, en lien avec des documents qui viennent de l'UPAC. On semble même vouloir tout lui mettre sur le dos, ce qui était non seulement les fuites qui ont mené à la publication dans nos pages, nous, au Journal de Montréal, des informations sur Machuré, mais bien avant ça aussi, les reportages de l'émission Enquête, notamment celui de Marie-Maud Denis autour de sa maman, notre ami Sam, là, mm-hmm. Qui avait des contacts avec Marc-Yvan Côté. Donc, dans ce qu'on a appris aujourd'hui, essayons de... C'est un dossier extrêmement complexe, là, et j'ai bien aimé que même Pascal Bérubé dise « Moi, je suis pas un spécialiste de tout ça, c'est difficile de s'y retrouver. » Je vais dire, même pour les spécialistes, c'est difficile. Mais je veux pas laisser nos auditeurs sur ce sentiment-là, cette impression-là, essayons de faire ressortir là, trois choses en particulier. D'abord, depuis bientôt 2 ans, on se rend compte que l'UPAC est à la chasse aux sources journalistiques, contrairement à ce qui a été dit dans les, notamment à la commission Chamberlain.
OK.
Allez, vous êtes toujours là? OK, pardon, je pensais que je n'étais plus là. Pardon. Alors, l'affidavit, c'est l'affidavit en question, c'est le sergent enquêteur Jean-Frédéric Gagnon,
oui.
Qui l'a rédigé. Il dit notamment dans cet affidavit-là qu'on cherche quelles sont les sources journalistiques, les sources des journalistes, et même aussi on a rencontré des journalistes pour leur demander quelles étaient leurs sources. Et même aussi, c'est écrit à un moment donné, j'ai obtenu, et ça c'est Jean-Frédéric Gagnon qui le dit dans les affidavits, d'Anne-Frédéric Laurence, qui est la porte-parole de l'UPAC et de Robert Lafrenière, la liste des numéros de téléphone des journalistes avec qui elle traite dans l'exercice de ses fonctions. Ça devient comme une habitude, ça, ou quoi, là, de refiler comme ça des numéros de téléphone. L'autre affaire incroyable qu'on apprend, Bernard, c'est que Martin Prudhomme, donc, à l'époque, patron de la Sûreté du Québec, aujourd'hui, il a été envoyé comme un pompier au SPVM, oui. le service de police de la ville de Montréal. Et Martin Prudhomme, qui est aussi le gendre de Robert Lafrenière, qui est patron de l'UPAC, ben lui, il a été interrogé par la GRC. Excusez-moi, c'est mêlant, là, mais c'est parce que dans cette enquête-là, et à un moment donné, on a voulu parler à Martin Prudhomme, puis on s'est dit, pour éviter de soulever des soupçons de collusion, tout ça, il faut absolument demander à un autre corps policier de poser des questions. C'est la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, qui a posé des questions à Martin Prudhomme. Puis Martin Prudhomme, il dit, écoutez, le député libéral Guy Ouellet, là, c'est un homme et un policier honnête.
C'est pas lui. Il dit que c'est pas lui qui pense que c'est pas Ouellet qui a agi comme source des journalistes.
Exactement. Autrement dit, il contredit son beau-père.
Il contredit la thèse de l'UPAC qui pense que c'est Ouellet qui a rendu public, qui a coulé les documents. Prudhomme dit, Ouellet, d'après moi, c'est pas lui qui a coulé les documents.
Exactement.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose, là. Alors ça, c'est une des nombreuses choses qu'on apprend dans ces affidavits-là. On apprend aussi que le député Ouellet, qui possédait déjà au moins un téléphone cellulaire, en a activé deux autres. C'était des appareils mobiles prépayés le jour même où il y a une enquête qui a été déclenchée sur les fuites des documents confidentiels de l'UPAC. Donc, on n'a pas entendu Martin Coiteux tout à l'heure.
Antoine, c'est ça justement que j'allais te poser comme question. Quel est le rapport, d'après toi, entre les faits nouveaux que tu viens de nous dévoiler et le fait que Coiteux n'ait pas répondu à vos questions puis soit passé en coup de vent devant vous autres, se dirigeant d'un pas léger et pressé, surtout vers les bureaux du premier ministre? Tu as même parlé de situation de crise. Fais-moi le lien entre les deux, là.
Bien, et je pense que, et j'allais te parler parce qu'il y a un autre élément. C'est que là, l'UPAC est poursuivi par l'ancien directeur de sa section des accréditations pour, je ne sais jamais comment le dire.
Ouais, la vérification.
Vérification, c'est ça. Marcel Forgette.
Le numéro 2 de l'UPAC.
Numéro 2 de l'UPAC. Mais il s'occupait, lui, surtout, de voir si les entreprises qui voulaient faire affaire avec l'État était fiable et correct, et qu'il n'y avait rien de mauvais ou dans leur passé. Alors ça, lui, on sait, il a sauté cet automne, Marcel Forgette, on l'a poussé à démissionner, et d'ailleurs, là, ce qu'on révélait ce matin dans le Journal de Montréal, c'est que Marcel Forgette, il veut poursuivre l'État québécois pour 2 millions parce qu'il dit qu'il y a du salaire de perdu, dommages et intérêts. Il dit qu'on a mis c'est un congédiement illégal. Mm-hmm. Donc, il y avait ça ce matin, là, déjà quand M. Coiteux est arrivé ici au Parlement. Puis, il y avait cette nouvelle dont je t'ai parlé plus tôt, c'est-à-dire plus de la moitié des enquêteurs qui proviennent de la SQ. Hein, parce qu'il faut savoir que l'UPAC, c'est justement pas un corps de police en soi. C'est un corps de police qui ramage, c'est comme une courte pointe de police.
Y compris des policiers de la GRC, n'est-ce pas? Non?
Non,
les policiers de la GRC sont pas là.
On va chercher, non, du monde de des enquêtes de Revenu Québec. Il y a toutes sortes de monde, on les a regroupés un peu dans l'esprit de Carcajou dans le temps, qui a lutté contre les...
Les moteurs. Mais tu vois, dans Carcajou. Mais dans Carcajou, je pense qu'il y en avait des agents de la GRC. Mais je te posais la question parce que tout à l'heure, tu nous disais que c'est justement des agents de la GRC qui sont allés voir Ouellet pour le. Pas Ouellet, mais Prudhomme pour le questionner justement sur Ouellet puis les fuites. Mais de toute façon, refermons ça. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est que la moitié des enquêteurs qui proviennent de la Sûreté du Québec et qui travaillent actuellement à l'UPAC, bien, ils veulent s'en aller. En raison du mauvais climat de travail, on le sait, c'est un panier de crabes, l'UPAC, et c'est très difficile, il y a un climat pourri. Alors, là-dessus, tu vois, et sur Forgette, la question de la poursuite de Marcel Forgette, Martin Coiteux a réagi ce matin, on peut l'écouter.
J'ai dit ce que j'avais à dire cette journée-là, mais je commenterai pas davantage. Moi, j'ai dit, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai dit ce que je croyais et ce que je pense toujours.
OK. Donc, il posait la question à ce moment-là, est-ce que monsieur... Et en fait, il avait dit, monsieur Forget n'est pas l'homme de la situation.
C'est ça. Mais aussi, il nous a dit dans le même point de presse que, au fond, si on veut régler la question du climat de travail pourri à l'UPAC, ça nous prend la loi 107. Parce que la loi 107 va créer un corps de police indépendant. Puis là, à ce moment-là, les policiers vont avoir une loyauté à l'égard de leur corps de police. Alors que là, ils ont des loyautés doubles. Hein? À moitié à l'UPAC, à moitié à la SQ. Ils peuvent revenir à SQ quand ils veulent, ou aux autres corps policiers, ou aux autres services d'enquête. Là, je t'ai parlé de Revenu Québec, mais il y en a d'autres. Okay. Alors, c'est ça, là.
Oui. Mais là, c'est parce que si la moitié des enquêteurs qui sont à l'UPAC, la moitié des enquêteurs de la Sûreté qui sont à l'UPAC pensent à partir, imagine-toi, là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui se passe, là, mais je pose la question. Imagine-toi que cette vingtaine d'enquêteurs disent ou aient fait parvenir un message, mettons, au ministère ou au bureau du ministre, comme quoi ils pourraient démissionner en bloc, là. Mettons.
Oui, on jase. 35 enquêteurs.
On jase.
35 enquêteurs qui viennent de la SQ.
Ben ouais. C'est parce que ça c'est le genre d'événement qui pourrait effectivement créer un climat de crise et amener un ministre de la Sécurité publique à se diriger prestement vers le bureau du premier ministre. En tout cas.
Absolument. Bon. Mais là, en même temps, est-ce que le gouvernement Couillard veut avoir l'air de se mettre les mains dans l'UPAC? Ils ont toujours dit que c'était farouchement indépendant puis qu'on se mêlait de rien.
Oui.
Mais ils viendraient dégommer tout le patron de l'UPAC, c'est aussi délicat, ça.
C'est certain. Il faut s'arrêter, Antoine.
Oui.
Au retour, on va aller rejoindre Alec, qui va nous parler notamment de la bataille pour l'investiture libérale dans Outremont. Vous savez que Thomas Mulcair s'en va, hein? C'est le député d'Outremont, Thomas Mulcair, NPD. Mais là, ça a longtemps été un comté libéral, ça. Puis avec les bons sondages qu'ils ont présentement, les libéraux sont confiants de reprendre le comté d'Outremont, comprenez-vous? Il y a bien du monde qui aimerait ça être député d'Outremont chez les libéraux. Alors, la bataille est commencée. Alec nous en parle dans un instant. Donc, de retour avec Antoine et Alec. Alec, parle-nous donc de cette bataille d'Outremont qui est déjà bien entamée du côté des libéraux.
Oui, parce que Thomas Mulcair ne va quitter son siège qu'en juin, donc on peut penser que l'élection partielle va avoir lieu seulement l'automne prochain, mais déjà, il y a des candidats à l'investiture libérale qui sont sur le terrain, qui travaillent à ramasser des appuis, parce que ça va être probablement un bon comté pour les libéraux. Hein. C'était très libéral jusqu'en 2007, quand Thomas Mulcair l'a emporté pour le NPD, puis il est là depuis ce temps-là, mais ça reste une circonscription peut-être pas nécessairement facile, parce que je pense que le candidat libéral va avoir à travailler pour gagner cette circonscription-là, mais en même temps, quand même assez favorable. Et donc, quand tu gagnes l'investiture libérale, tu as des chances de devenir député, hein, mettons-le comme ça.
Donc, surtout ces temps-ci.
C'est ça. Et donc, ça travaille très fort. Alors, trois noms qui circulent actuellement, il va y en avoir d'autres, je t'avertis, mais on commence par les trois que j'ai réussi à confirmer. Donc, Rachel Bendayan, qui était candidate pour le Parti libéral du Canada contre Thomas Mulcair en 2015. Mm-hmm. Elle avait perdu par une dizaine de points. À l'époque, là, Mulcair l'avait emporté par 44% des voix. Elle avait eu 34. Elle va être sur les rangs. Elle a déjà commencé à travailler. Elle continue, il faut dire, d'entretenir son réseau, elle, à Outremont, depuis les élections. Elle est restée très près de la politique parce qu'elle était chef de cabinet de la ministre Bardis Chagger à Ottawa, qui est ministre des PME et du tourisme. Donc, elle est allée travailler sur la colline après avoir perdu comme candidate, puis elle a évidemment gardé toutes ses relations dans Outremont. Elle continue à travailler. C'est une proche de Sophie Trudeau, la femme de Justin Trudeau,
Ça peut aider, ça.
Ça nuit jamais. Elle était avocate au grand cabinet Norton Rose avant de faire le saut en politique. Il y a l'ancienne journaliste de Radio-Canada, Paul Robitaille, qui est en sérieuse réflexion. Elle habite Outremont depuis 1981, donc elle connaît bien le comté. Je lui ai parlé ce matin brièvement au téléphone. Elle me confirme qu'elle réfléchit, qu'elle est sollicitée par plusieurs libéraux de longue date, puis qu'elle y pense. Ses enfants sont un peu plus vieux maintenant, ils ont 18 et 20 ans. Elle est actuellement commissaire à l'immigration et au statut de réfugié. Mercier. C'est quand même un pensez-y bien. Si elle se lance dans la course à l'investiture, elle doit abandonner son poste, hein, parce que c'est un poste qui est au gouvernement. Donc, elle doit prendre sa réflexion très au sérieux. Elle n'a rien décidé encore, mais elle est tentée d'y aller. Puis elle a été journaliste à Radio-Canada pendant plus de 15 ans. Je ne sais pas si tu l'as connue,
toi. Je l'ai bien connue, moi.
Paul Robitaille,
oui.
Je l'ai connue
à Windsor. À Windsor, en Ontario, où elle était journaliste. Moi, j'ai commencé à Windsor. Elle était là à ce moment-là.
Moi, c'est ma cousine.
C'est ta cousine?
Oui.
Bon. Pour vrai?
C'est la fille. Oui, oui. C'est la fille du cousin de mon père.
Ouais. Ah ben, le monde est petit, hein? Ben, moi, je vous dis, messieurs, je la connais pas tant que ça.
OK. Et elle a été correspondante à Mexico avant que je le devienne.
Oui,
j'ai même acheté sa voiture.
Oh, bon, voilà. Elle a effectivement été correspondante à l'étranger pendant plusieurs années lorsqu'elle était
à Moscou, notamment. Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, Paul Robitaille, qui est en réflexion, rien de confirmé, mais son nom circule. Et David Marshall, qui est le président de l'Association libérale d'Outremont, pourrait être sur les rangs. Son nom circule, mais jusqu'à présent, c'est pas le nom qu'on entend le plus. Il pourrait aussi décider de rester en retrait, un peu plus neutre, s'occuper de gérer la course là, qu'il va y avoir et ne pas mettre son nom dans le chapeau. Il paraît-il qu'il n'est pas décidé, mais son nom circule quand même. C'est normal quand tu es président d'une association. Il y a beaucoup de gens qui te voient éventuellement comme député. Donc, son nom à David Marshall circule aussi. Puis moi, je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres qui vont s'ajouter, au moins deux ou trois. Là. Ça pourrait être une course assez serrée à 5-6 personnes parce que, je le disais, c'est un comté qui est quand même intéressant. Puis au NPD, on voudrait éventuellement le garder, ce comté-là, parce qu'il y a quand même... Outremont, c'est grand au fédéral. Hein? C'est une très grande circonscription. Il y a des poches d'électeurs, notamment dans le Mile End, qui sont très néo-démocrates, très à gauche. Donc, le NPD voudrait garder ce comté-là, mais ça va être difficile. Puis Carl Bélanger, qui est l'ancien conseiller de Thomas Mulcair, de Jack Layton, me disait que lui, ce qu'il conseille au parti, il n'est plus lié au parti, mais il a été quand même pendant très, très longtemps. Il dit... On devrait choisir au NPD un candidat rapidement, évidemment quelqu'un qui a du potentiel, mais au moins le choisir rapidement, qui puisse commencer à arpenter la circonscription, peut-être même avec Thomas Mulcair, avant que Mulcair se retire, avoir une passation des pouvoirs nette et claire pour essayer de garder ce comté-là. Parce que si on se décide à la dernière minute...
Est-ce que Thomas Mulcair a envie d'aider un parti qui l'a rejeté comme une vieille chaussette?
Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que ça doit dépendre du candidat qu'ils vont choisir, effectivement, parce qu'il y a aussi, lui, le loisir de ne pas appuyer son successeur. Mais si on prend quelqu'un que Mulcair aime bien, un nom intéressant, ça se peut qu'il lui donne clairement son appui. Du moins, c'est ce qu'on souhaiterait dans les rangs du NPD au Québec, qu'on puisse se décider assez rapidement pour labourer le terrain. Parce que si on se décide en septembre, quelques semaines avant les élections, ça va être difficile pour le NPD.
On s'entend. Parle-nous maintenant de cette blague de Justin Trudeau qui a fait le tour du monde.
Oui, et soulever la colère de la droite aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie. Et je pense que Justin Trudeau, qui a répondu à quelques questions là-dessus hier, avant d'entrer au caucus libéral, donc avant de partir pour sa tournée aux États-Unis, voulait vider le sujet, voulait pas se faire poser ces questions-là aux États-Unis, parce que là, ça roule sur Fox News, entre autres. Écoute, je te ramène dans le contexte. Il y a une semaine, lors d'une assemblée publique à Edmonton, Justin Trudeau a répondu à une question d'une femme dans l'assistance, comme il l'a fait toujours, mais il a fait une petite boutade. Il dit qu'on devrait peut-être utiliser l'expression « people kind » au lieu de « mankind ».
Parce qu'il y a le mot « man »,«
man ».
Parce qu'il y a le mot « homme ». Ouais.
Exactement. Et donc, on devrait être plus inclusif et peut-être changer le mot. Je te fais entendre l'extrait donc de cet échange-là avec la citoyenne à Edmonton, puis je t'explique la suite tout de suite après.
« Maternal love is the love that's going to change the future of mankind ». So we'd like you to look.
We like to say people kind, not necessarily mankind, because it's more inclusive.
There we go, exactly. Yes, thank you.
We can all learn from each other.
Alors, okay. Là, il dit que c'était une blague. Moi, quand je l'ai écouté, je pensais pas qu'il faisait une blague, là.
Non, ben moi, je pensais que c'était... Moi, je l'ai écouté aussi, la retransmission. J'avais plutôt compris que c'était une blague. Puis d'ailleurs, les journalistes présents... aussi, puisqu'on n'en a à peu près pas parlé au Canada. Puis même la droite canadienne, les conservateurs n'ont pas vraiment sauté sur ce sujet-là. Il fait de temps en temps des blagues sur le fait qu'il est inclusif à tout prix, hein, parce qu'il le sait, là, qu'il a une image de pro-diversité, de multiculturalisme, d'inclusif à tout prix. Puis de temps en temps, moi, je l'ai déjà entendu faire quelques blagues là-dessus.
C'est de l'autodérision.
Ouais, c'est ça. Puis bon, quand on,
regarde... Si c'est de l'autodérision, c'est assez drôle quand même.
Ouais, ben visiblement, pas tout le monde qui a trouvé ça drôle, parce que sur Fox News...
Il y a des gens qui sont pas capables de capter le...
Ouais, et puis Piers Morgan, qui est un commentateur de droite en Grande-Bretagne, qui est tombé sur l'extrait, le fait jouer en disant qu'il y a la que Trudeau représentait la dérive féministe, la dérive de gauche, les inclusifs à tout prix. Puis bon, avant de quitter vers les États-Unis, je le disais, il a voulu faire le point là-dessus en disant que dans le contexte là-bas, il trouvait que c'était plutôt drôle. D'ailleurs, on entend la foule réagir avec amusement. Mais il dit, quand on sort du contexte, c'est vrai que ça a l'air un peu abusif là, puis exagéré en termes de rectitude politique.
Parce que tant qu'à y être, c'est même le mot « woman » dont il faudrait changer l'appellation. Il y a des féministes qui le proposent. W-O-M-A-N serait changé par W-O-M-Y-N.
Et tu me niaises, là.
Je te jure. Non, mais écoute, tape « woman » avec un Y, tu vas voir, il y a tout un mouvement qui dit que et c'est un alternative spelling extirper le mot man du mot woman.
Et j'ai juste le goût de dire, on est-tu
on est rendu là.
On est-tu tombé sans tête?
Bon, prochaine blague de Justin Trudeau, j'y propose.
Je te fais entendre Justin Trudeau, donc hier, qui, je le disais avant d'entrer au caucus, a réagi et on lui a même pas posé la question sur le sujet. Hein. C'est lui qui a décidé d'arrêter et de parler aux journalistes de cette blague-là, parce que je le disais, il s'en va aux États-Unis, puis je pense qu'il voulait vider le sujet. On peut entendre Justin Trudeau hier.
You all know that I don't necessarily have the best of track records on jokes. I made a dumb joke a few days ago that seems to have gone a little viral in the room on the PeopleKind comment. It played well in the room and in context. Out of context, it doesn't play so well. And it's a little reminder to me that I shouldn't be making jokes even when I think they're funny.
OK. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un très bon historique de blagues, parce que je me souviens quand il était dans l'opposition, il avait fait une blague sur la grosseur des CF-18 canadiens lors de la mission en Irak, qui était vraiment une blague à caractère un petit peu grossière, là, où on comparait l'engin masculin à la grosseur des chasseurs canadiens. C'était pas une très bonne blague, là. C'était en anglais, encore une fois.
Ça fait penser à des blagues de moustache.
Ouais, non, c'est ça, puis il l'avait échappé un peu, puis après ça, il s'était excusé. Bon, fait que c'est vrai qu'il n'y a pas un très bon historique quand il essaie de faire des blagues. Fait que bon, bref. Moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement dommageable pour lui, là. Des fois, je me demande si, on en demande tellement à nos politiciens. Après ça, on leur reproche d'être formatés puis d'avoir la langue de bois, puis qu'ils font pas de blagues, puis qu'ils sont plates, puis bon, quand ils essaient d'en faire, des fois, ça marche pas toujours, puis après, on leur reproche. Moi, j'avoue que j'avais pas trouvé ça particulièrement grave, étant donné que dans le contexte là-bas, ça avait fait rire un peu les gens. Mais bon, quand évidemment ça devient viral aux États-Unis où tu t'en vas en mission, en Australie, en Grande-Bretagne, qui sont des alliés canadiens, t'es premier ministre, c'est clair que peut-être une petite mise au point s'imposait.
Ouais, mais en tout cas, Alec, j'ai un petit désaccord avec toi là-dessus, ça nous arrive.
Et tu as le droit.
Ouais, voilà, moi je suis pas sûr, pas en tout, qu'il faisait une blague. Là. Vraiment pas convaincu. Puis, soit dit en passant, la droite américaine, entre autres, n'a pas trouvé ça drôle, mais il y a bien du monde qui n'ont pas trouvé ça drôle puis qui sont pas de droite, là, qui trouvaient que, franchement, blague ou pas blague, là, ça en devient franchement ridicule. Tu sais, à un moment donné,
peut-être. Mais en même temps,
si tu veux te moquer, si tu veux te moquer de ta tendance à être ouvert puis à vouloir montrer que tu es féministe comme ça, puis tu fais de l'autodérision, ben là, ça peut être drôle. Si c'est ça qu'il voulait faire, mais on comprend mal son intention.
Mais quand tu fais de l'autodérision, si tu veux faire de l'autodérision, il faudrait que ça paraisse que tu fais de l'autodérision, non?
C'est ça. Ben, c'est comme ça. Un politicien qui envoie une carte de Noël avec des graines de sapin. Puis
bon, là, savez-vous c'est quoi la dernière, là? Voulez-vous savoir c'est quoi la dernière? Le Manitoba va changer de nom. Manitoba, il va s'appeler le People Toba.
People Toba. Okay?
Là, je viens de faire une joke. Yes, sir! People Toba. Bon, OK. Hey Antoine, il te reste une minute pour résumer ce que Jean-Marc Fournier et Lucie Charlebois ont répliqué à Ottawa sur dans le dossier du cannabis. Es-tu capable en une minute?
Oui, parce que Ottawa a laissé entendre que les provinces ne pourraient pas interdire la culture du cannabis à la maison. Monsieur Fournier dit « c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le fédéralisme ». On peut l'écouter.
La majorité des gens, ce qu'ils me demandent, c'est zéro plan à la maison.
Dans le cas du Québec, il y a une nation qui compte s'exprimer avec ses compétences et ne pas les abandonner. Je pense que celles que nous avons sont assez claires sur la volonté des Québécois exprimée lors des consultations sur l'objectif qui est celui-là même, soi-disant, du fédéral. Je le répète, des conditions qui sont de protéger la santé et la sécurité publique par l'établissement d'exigences strictes. On a le même objectif. Notre modalité, c'est zéro plan à domicile.
Bon. C'est ça, parce que la loi fédérale prévoit que 5 plans et plus ne sont pas autorisées.
Donc, la loi d'Ottawa prévoit qu'on
permet
puisse,
qu'on puisse faire ça. Un peu de culture à la maison.
Québec
pas
dit non.
Québec dit pas pantoute.
C'est bon. Voilà. Ben, c'est
mais
très
il
bien
est prêt à aller devant les tribunaux s'il faut, mais il ne pense pas que le fédéral va poursuivre. Mais la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a laissé entendre que ça irait pas, là, que ça serait pas correct que les provinces interdisent complètement la culture à domicile.
Bon, mais une histoire à suivre. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire, Journal de Montréal et de Québec. Merci, Antoine.
Au revoir.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine d'actualité. À la prochaine chicane, moi, Alec.
À demain.
Loïc Tassé avec l'International dans un instant.